Oui. Oui, bonsoir. Ah, vous venez vous connecter à Maupassant. Bien, bienvenue au salon de théâtre, je vous en prie. Prenez place. Je vous en prie. Je vous réserve la meilleure. Et comme chaque soir, le théâtre s'invite en fait chez vous avec un conte de Maupassant. A tout de suite. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau direct du Salon de Théâtre, pour un nouveau conte de Maupassant. Celui que j'ai choisi pour vous aujourd'hui s'inscrit dans la grande rivalité de l'Église et de l'État. Il a été publié en 1883 et en 1882, une loi a interdit tout signe ostentatoire de religion à l'intérieur des écoles. On a même été jusqu'à retirer les crucifix des salles de classe sous les yeux horrifiés des élèves. Voilà, c'est la vieille querelle de Monsieur le maire et Monsieur le curé, Pépone et Don Camillo. Et c'est dans ce contexte de l'époque, qui ressemble parfois à la nôtre, que Maupassant, sous le pseudonyme de Maufrigneuse, a écrit « La confession de Théodule Sabot ». Quand Sabot entrait dans le cabaret de Martinville, on riait d'avance. Ce bougre de Sabot était-il donc farce? En voilà un qui n'aimait pas les curés, par exemple. Ah mais non, ah mais non. Il en mangeait, le gaillard. Sabot, Théodule, maître menuisier, représentait le parti avancé à Martinville. C'était un grand homme maigre, à l'œil gris et sournois, aux cheveux collés sur les tempes, à la bouche mince. Quand il disait « Notre Saint-Père le pape !» d'une certaine façon, tout le monde se tordait. Il avait soin de travailler le dimanche pendant la messe. Il tuait son cochon tous les ans, le lundi de la semaine sainte, pour avoir du boudin jusqu'à Pâques. Et quand passait le curé, il disait toujours, par manière de plaisanterie, « Oh, en voilà un qui vient d'avaler son bon Dieu sur le zinc !» Le prêtre, un gros homme, très grand aussi, le redoutait à cause de sa blague qui lui faisait des partisans. L'abbé Maritime était un homme politique, ami des moyens habiles. La lutte entre eux durait depuis 10 ans. Lutte secrète, acharnée, incessante. Sabot était conseiller municipal. On croyait qu'il serait maire, ce qui considérait certainement la défaite définitive de l'Église. Les élections allaient avoir lieu. Le camp religieux tremblait pour Martinville. Or, un matin, le curé partit pour Rouen, annonçant à sa servante qu'il allait à l'archevêché. Il revint 2 jours plus tard. Il avait l'air joyeux, triomphant. Et tout le monde sut le lendemain que le cœur de l'Église allait être refait à neuf. Une somme de 600 francs avait été donnée par Monseigneur sur sa casserette particulière. Toutes les anciennes stalles de sapins devaient être détruites et remplacées par des stalles nouvelles en cœur de chêne. C'était un travail de menuiserie considérable et dont on parlait le soir même dans toutes les maisons. Théodule Sabot ne riait pas. Quand il sortit le lendemain par le village, les voisins, amis ou ennemis, lui demandaient, par manière de plaisanterie, « C'est Ité qui va faire le cœur de l'Église !» Il ne trouvait rien à répondre. Mais il rageait ferme. Les malins ajoutaient « C'est un bon ouvrage, il n'y a pas moins de 200 à 300 francs de profit. » 2 jours plus tard, on savait que la réparation serait confiée à Célestin Chambrelan, le menuisier de Percheville. Puis on démentit la nouvelle, puis on annonça que tous les bancs de l'église allaient aussi être refaits. Ça valait bien 2 000 francs qu'on avait demandé au ministère. L'émotion fut grande. Théodule Sabot n'en dormait plus. Jamais, de mémoire d'homme, un menuisier du pays n'avait exécuté pareille besogne. Et puis, une rumeur courut. On disait tout bas que le curé se désolait de donner ce travail à un ouvrier étranger à la commune, mais que, cependant, les opinions de Sabot s'opposaient à ce qu'il lui fut confié. Sabot le sut. Il se rendit au presbytère, à la nuit tombante. La servante lui répondit que le curé était à l'église. Il y alla. Deux demoiselles de la Vierge, vieilles filles souris, décoraient l'autel pour le mois de Marie sous la direction du prêtre. Lui, debout au milieu du chœur, gonflant son ventre énorme, dirigeait le travail des deux femmes qui, montées sur des chaises, disposaient des bouquets autour du tabernacle. Sabot se sentait gêné là-dedans, comme s'il fût entré chez son plus grand ennemi. Mais le désir du gain lui picotait le cœur. Il s'approcha, la casquette à la main, sans même s'occuper des demoiselles de la Vierge qui demeuraient saisies, stupéfaites, immobiles sur leur chaise. Il balbutia bonjour, monsieur le curé. Le prêtre répondit sans regarder, tout occupé de son autel. Bonjour, monsieur le menuisier. Sabot, désorienté, ne trouvait plus rien. Après un silence, il dit cependant Vous faites des préparatifs ? L'abbé maritime répondit « Oui, nous approchons du mois de Marie. » Sabot encore prononça « Voilà, voilà. » Et puis se tut. Il avait envie maintenant de se retirer sans parler de rien, mais un coup d'œil jeté dans le cœur le retint. Il aperçut 16 stalles à refaire, 6 à droite et 8 à gauche, la porte de la sacristie occupant 2 places. 16 stalles en chaîne. Cela valait au plus 300 francs et en les fignolant bien, certes, on pouvait gagner 200 francs sur le travail si on n'était pas maladroit. Alors il bredouilla, je viens pour l'ouvrage. Le curé parut surpris, il demanda « Quel ouvrage ?» Sabot éperdu murmura « L'ouvrage à faire. » Alors le prêtre se tourna vers lui et le regarda dans les yeux. « Est-ce que vous voulez parler des réparations du cœur de mon église ?» Au ton que prit l'abbé maritime, Théodule Sabot sentit un frisson lui courir dans le dos et eut encore une furieuse envie de détaler. Il répondit cependant avec humilité « Mais oui, monsieur le curé. » Alors l'abbé croisa ses bras sur sa large bedaine et comme un perclus de stupéfaction, c'est vous, Sabot, qui venez me demander cela, mais vous, le seul impie de la paroisse, et ce serait un scandale public. Monseigneur me réprimanderait, me changerait peut-être. Il respira quelques secondes, puis reprit d'un ton plus calme. Je comprends qu'il vous soit pénible de voir un travail de cette importance confié à un menuisier d'une paroisse voisine. Mais je ne peux faire autrement. À moins que... Ah, mais non, c'est impossible. Vous n'y consentiriez point, et sans ça, jamais. Sabot regardait maintenant la file des bancs alignés jusqu'à la porte de sortie. Christi, si on changeait tout ça ? Il demanda, qu'est-ce qu'il vous faudrait, monsieur le curé ? Dites toujours. Le prêtre, d'un ton ferme, répondit, il me faudrait un gage éclatant de votre bon vouloir. Sa peau murmura, je ne dis pas. Peut-être qu'on s'entendrait. Le curé déclara, il faut communier publiquement à la grand-messe de dimanche prochain. Le menuisier se sentit pâlir et sans répondre, il demanda, il est bon, est-ce qu'on va les refaire tout ? L'abbé répondit avec assurance, oui, mais plus tard. Sabot reprit, je ne dis pas, je suis point rédhibitoire, mais je suis point consentant, je suis consentant à la religion, pour sûr. Ce qui me chiffonne, c'est la pratique, mais dans ce cas-là, je me montrerai pas réfractaire. Les demoiselles de la Vierge, descendues de leur chaise, s'étaient cachées derrière l'autel et elles écoutaient, pâles d'émotion. Le curé, se sentant victorieux, devint tout à coup bon enfant, familier. À la bonne heure, voilà une parole sage et pas bête, entendez-vous. Vous verrez. Sabot souriait d'un air gêné. Il demanda, y aurait-il pour moyen de la remettre à un prince de communion ? Et le prêtre reprit son visage sévère, du moment que les travaux vous seront confiés, je veux être certain de votre conversion. Puis il continua plus doucement, vous viendrez vous confesser demain, car il faudra que je vous examine au moins deux fois. Ça vous répéta deux fois. Ah oui. Le prêtre souriait. Vous comprenez bien qu'il vous faudra un nettoyage général, un lessivage complet. Donc, je vous attends demain. Le menuisier, très ému, demanda, où est-ce que vous faites ça ? Mais dans le confessionnal, dans cette boîte-là, au coin. Ah mais oui, ça ne me va guère, votre boîte. Mais pourquoi ça ? Vu que je ne suis point accoutumé de ça, et vu aussi que j'ai l'oreille un peu dure. Le curé se montra complaisant. Eh bien, vous viendrez chez moi, dans ma salle. Nous ferons ça tous les deux, tête à tête. Cela vous va-t-il ? Oui, pour ça, ça me va, mais votre boîte, non. Eh bien, à demain, après la journée faite, à 6 heures. C'est entendu, c'est tout vu, c'est convenu. À demain, monsieur le curé. Que couillon qui sont ici ! Et tendit sa grande main rude où le prêtre laissa tomber bruyamment la sienne. Le bruit de la claque courut sous les voûtes alla mourir là-bas derrière les tuyaux de l'orgue. Théodule Sabot ne fut pas tranquille pendant toute la journée du lendemain. Il éprouvait quelque chose d'analogue à l'appréhension qu'on a quand on doit se faire arracher une dent. À tout moment, cette pensée lui revenait. Il faudra me confesser ce soir. Et son âme troublée, une âme datée, mal convaincue, s'affolait devant la peur confuse et puissante du mystère divin. Il se dirigea vers le presbytère dès qu'il eut fini son travail. Le curé l'attendait dans le jardin en lisant son bréviaire le long d'une petite allée. semblait radieux et il aborda avec un gros rire. « Eh bien, nous y voilà, entrez, entrez, monsieur Sabot, on ne vous mangera pas. » Et Sabot passa le premier. Il balbutia. « Si ça vous faisait rien, monsieur le curé, je serais d'avis de terminer incontinent notre petite affaire. » Le curé répondit « À votre service. J'ai là mon surplis, une minute et je vous écoute. » Le menuisier, ému à ne plus avoir deux idées, le regardait se couvrir du blanc vêtement à plis pressés. Le prêtre lui fit un signe. « Mettez-vous sur ce coussin. » Sabot restait debout. Honteux d'avoir à s'agenouiller, il bredouilla. C'est-il bien utile ? Mais l'abbé était devenu majestueux. On ne peut approcher qu'à genoux du tribunal de la pénitence. Et Sabot s'agenouilla. Le prêtre dit « Récitez le Confiteor. » Sabot demanda « Quoi ça ?»« Le Confiteor. Si vous ne le savez plus, répétez une à une les paroles que je vais prononcer. » Et le curé articula la prière sacrée d'une voix lente en scandant les mots que le menuisier répétait. Puis il dit « Maintenant, confessez-vous. » Et Sabot ne disait plus rien, ne sachant pas par où commencer. Alors l'abbé maritime vint à son aide. « Mon enfant, je vais vous interroger puisque vous paraissez peu au courant. Nous allons prendre un à un les commandements de Dieu. Écoutez-moi et ne vous troublez pas. Parlez bien franchement et ne craignez jamais d'en dire trop. » Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Avez-vous aimé quelqu'un ou quelque chose autant que Dieu? Avez-vous aimé de toute votre âme, de tout votre cœur, de toute l'énergie de votre amour? Sabot suait de l'effort de sa pensée. Il répondit « Oh non, monsieur le curé, j'aime le bon Dieu autant que je peux, ça oui, je l'aime bien, mais dire que j'aime pas mes enfants, non, je peux pas. Dire que s'il fallait choisir entre eux et le bon Dieu, pour ça, je ne peux pas. Dire que s'il fallait perdre son enfant pour l'amour du bon Dieu, pour ça, mais je peux pas. Mais... je l'aime bien, pour sûr. Je l'aime bien tout de même. » Le prêtre grave prononça « Il faut l'aimer plus que tout. » Et Sabot, plein de bonne volonté, déclara « Je ferai mon possible, monsieur le curé. » L'abbé maritime reprit « Dieu en vain ne jurera ni autre chose pareillement. « Avez-vous quelquefois prononcé quelques jurons ?»«
Ah ben non, je jure jamais, quelquefois dans un moment de colère, je dis bien un sacré nom de Dieu. Mais pour ça, je jure jamais. »
Le prêtre s'écria « Mais c'est juré cela. » Et gravement, ne le faites plus. » Je continue. Les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Que faites-vous le dimanche?
Cette fois, Sabot se grattait l'oreille. Mais je sers le bon Dieu de mon mieux, monsieur le curé. Je le sers chez moi. Je travaille le dimanche.
Le curé magnanime l'interrompit. Je sais, vous serez plus convenable à l'avenir. Je passe les trois commandements suivants sur que vous n'avez point failli contre les deux premiers. Nous verrons le sixième avec le neuvième. Je reprends. Le bien d'autrui, tu ne prendras ni retiendras à ton escient. Avez-vous détourné par quelque moyen le bien d'autrui?
Mais Théodule Sabot, Saint-Lisa. Ah, mais non, je suis un honnête homme, monsieur le curé. Ça, je le jure pour sûr. Dire que j'ai point quelquefois compté quelques heures de plus de travail aux pratiques qu'ont des moyens, hein, pour ça, je ne dis pas. Dire que je mets point quelques centimes de plus sur les notes. Seulement quelques centimes. Hein. Pour ça, je ne dis pas. Mais pour voler, non. Ah, mais ça, non. Le curé reprit sévèrement, détourner un seul centime constitue un vol. Ne le faites plus. Faux témoignage ne dira ni mentira aucunement. Avez-vous menti? Ah non, pour ça, non, je suis point menteux, c'est ma qualité. Dire que j'ai point compté quelques blagues, pour ça, je dis pas. Dire que j'ai point fait accroire ce qui n'était point quand c'était de mon intérêt, pour ça, je dis pas, mais pour menteux, je suis point menteux. Le prêtre dit simplement, observez-vous davantage. Et puis il prononça, l'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Avez-vous désiré ou possédé quelque autre femme que la vôtre? Sabot s'écria avec sincérité. Pour ça non, ce curé. Ma pauvre femme l'a trompé. Non. Pas même du bout du doigt. Pas plus en pensée qu'en action, bien vrai. Il se tut quelques secondes, puis, plus bas, comme si un doute lui fût venu. Quand je vais à la ville, dire que je ne vais jamais dans une maison, vous savez bien, dans une maison de tolérance, histoire de rire et de badiner un brin et de changer de peau pour voir. Pour ça, je ne dis pas. Mais je paye, monsieur le curé. Je paye toujours, du moment qu'on paye. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Le curé n'insista pas et donna l'absolution. Théodule Sabot exécute désormais les travaux du cœur et communie tous les mois. Voilà, on se retrouve demain si vous voulez bien. Si le conte vous a plu, si l'aventure vous plaît, écoutez, écrivez-le en bas de votre page. Là, il y a des petits pouces comme ça, vous rajoutez un petit pouce levé. Vous partagez l'information, qui est partagée avec vos amis. Et puis vous pouvez écrire aussi vos notes, là, vos commentaires. J'y répondrai. Les jeudis, nous organisons en direct un chat. Et je répondrai en direct à vos questions, vos commentaires. Alors écrivez un petit mot, ça me fera plaisir. En tout cas, merci de votre écoute. À demain, j'espère. Ciao.